Bonjour et bienvenue. Les quelques notes de la Rhapsody in Blue de Gershwin annoncent l'arrivée d'un comique étonnant, un homme de spectacle comme il en existait rarement. C'était un jeune gars de 18 ans lorsqu'il s'est présenté devant Guy Lux à la télévision et finalement, tout le monde a découvert le talent de ce chanteur et imitateur. On vous propose aujourd'hui ce portrait avec ceux qui ont connu Thierry Leluron. Bernard Mabie, Pierre Douglas, Robert Malla et Guy Lux, que nous avions rencontrés en 1992 à Montreux. Ils nous parlaient des premières prestations de Thierry Leluron.
J'aimais un peu Thierry Leluron, que j'ai également découvert dans une émission qui s'appelait « Le jeu de la chance » dans Télédimanche, que j'animais, où on a découvert Mireille Mathieu, Georgette Lemaire et autres, et qui s'inscrivait dans le cadre d'une émission qui s'appelait Télédimanche, qui était consacrée au sport, qui avait lieu le dimanche après-midi. Et un jour, il est venu, Thierry Leluron, il est venu timide et il s'est mis à chanter de l'opérette. Il chantait pas mal d'ailleurs, il avait une bonne voix, mais il n'a pas gagné. Mais comme c'était un têtu, on l'a vu réapparaître un mois ou un mois et demi plus tard avec des imitations. Et là, alors, il a emballé le morceau, puis il ne s'est plus jamais arrêté de gravir jusqu'où il est arrivé. Des millions de personnes ont assisté à sa naissance.
Thierry Leluron.
C'est décidé, air souriant, le regard droit.
Voilà les chevaliers du ciel.
Fiers et courtois dans les tournois, comme l'était ceux d'autrefois.
Voilà les chevaliers du ciel.
De Singapour à l'Alaska et de Panama à Panama.
Voilà les chevaliers du ciel.
Portant l'insigne aux ailes d'or, sur la poitrine et sur le bras.
Voilà les chevaliers du ciel.
Il se destinait donc à la chanson et à l'opérette, comme il le prouve ici dans l'un de ses premiers 33 tours sortis en 1973. Robert Malla, journaliste que nous avions déjà entendu dans ses archives du Rire, nous parle ici de Thierry Leluron.
Leluron, bon, tout le monde connaît son histoire, il débute au jeu de la chance à la télévision avec un air d'opéra ou d'opérette, et puis dans les coulisses, il a mis Chaban-Delmas, qui est un homme politique à la voix nasillarde et qui nasillarde et qui monte les escaliers 4 à 4. Enfin bon. Donc Leluron imite Chaban-Delmas et c'est une carrière qui commence, qui est prodigieuse parce que avant Leluron, l'imitation était un genre mineur. C'était pour faire rigoler les banquets, des petits spectacles.
Claude Véga, il y avait André Houbert, il y avait des gens.
Il y a eu Paul Meurice. Paul Meurice, amant de Madame Édith Piaf avant la guerre, a été un imitateur connu. Mais Leluron, c'est autre chose, parce qu'il fait du spectacle. C'est une grande parade. Et lui aussi s'en prend au pouvoir. Avec le ministère Patraque, entre autres, qui est tiré de la chanson de d'Ouvrard. À l'avènement de Giscard d'Estaing, président de la République, avec les scandales qui se déroulent peu à peu, sur la scène de Marigny, Leluron ose, il avait une marionnette Giscard, il ose dire « Bonsoir, médium ». Ça a été le scandale. Et bien entendu, on persécute Leluron, et comment le persécute-t-on ? Par l'entremise du fisc. Parce que c'est la meilleure façon de faire taire quelqu'un.
Non, écoutez, j'en ai assez, j'en ai par-dessus la tête, de ces pseudo-safaris cadeaux en Afrique, par exemple. On me rabat les oreilles, tout ça. C'est vrai que je vais de temps en temps en Afrique, uniquement pour chasser mes idées noires. Il n'y a pas là de quoi en faire une affaire. Et je vous dirais que les villages africains me rappellent mes ministres, puisqu'ils ont eux aussi une case de vide.
Il y a eu les mêmes problèmes avec Mitterrand. Souvenez-vous de cette émission de Drucker, Champs-Élysées, où Leluron, avec un chapeau à la Mitterrand et un manteau à la Mitterrand, fait chanter à toute la foule « Emmerdant, c'est la rose » sur l'air de Bécaud et avec la voix de Bécaud.
Il y a une chanson de Gilbert Bécaud et Louis Amad qui n'est pas encore devenue un hymne national. Ça viendra peut-être avec vous ce soir si vous la reprenez avec Gilbert Bécaud.
Ouais, salut. Le 10 mai, il y a 3 ans, fut un jour extraordinaire, a bien marqué d'une pierre. Ouais, vraiment, vraiment, l'Élysée prit pour 7 ans un drôle de locataire, un socialiste exemplaire, Mitterrand, l'emmerdant.
C'est la rose de l'emmerdant. C'est la rose de l'emmerdant.
Allez-y, ça détend.
C'est la rose.
Crois-moi.
Les archives du rire.
Bernard Mabie est un humoriste politique, comme l'était Bedos, mais pas forcément dans la même ligne de parti. Lui, il a travaillé 7 ans avec Thierry Leluron. Il a même sorti un livre, Thierry Leluron, il m'appelait ma boule. Il imitait les hommes et réjouissait les autres. Il servait du caviar, mais se régalait d'un pot-au-feu. Il fréquentait les grands, mais recherchait les humbles. Il se brouillait la veille, mais vous embrassait le lendemain. Tel était le Thierry Leluron que j'ai connu. Jamais là, mais présent, irréel, mais bien vrai. La tête en smoking et le cœur en jeans. Une personnalité hors du commun, complexe et attachante que j'ai eu la chance de découvrir peu à peu au fil d'un septennat de collaboration et d'amitié. En 1992, Bernard Mabie me parlait de ce qui l'avait amené à écrire pour Thierry Leluron.
C'est-à-dire que j'ai commencé dans ce métier comme journaliste. Alors, j'ai donc d'abord commencé par écrire des papiers, des articles. Je travaillais avec Henri Chapier. J'étais chez Philippe Tesson et j'étais donc avec Chapier et Jean-François Kahn. Et il m'avait demandé d'écrire des papiers sur la variété, le spectacle, ce que j'ai fait pendant 3-4 ans, avant de rencontrer Leluron, qui m'a lui demandé d'écrire des textes comiques, quoi. Alors, comme je gagnais pas très bien ma vie en presse écrite, parce que Philippe Tesson n'a pas la réputation de payer beaucoup, je me suis dit, peut-être un moyen de m'en sortir, c'est d'écrire des sketchs. Et surtout, ayant la chance d'être contacté par quelqu'un comme Thierry Leluron, c'était extraordinaire. Donc je me suis dit, il faut prendre la chance quand elle passe, quoi. Mm-hmm. J'ai toujours essayé de saisir la chance au moment où elle passait, et de l'exploiter un maximum.
Vérité, nouvelle formule, j'ai le bonheur de recevoir M. Georges Marchais, premier secrétaire du Parti communiste français.
Bon, bien. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Alors avec vous, M. Marchais, nous allons essentiellement parler de politique étrangère, bien sûr.
Oui, là je vous arrête tout de suite, vous savez, pour moi parler de l'Union soviétique, c'est pas parler de politique étrangère. Ça soit clair et net, hein.
Bien.
Il y a une raison simple d'ailleurs, c'est que le Parti communiste français et le Parti communiste soviétique,
oui,
sont des partis frères.
Ah oui, d'accord. Mais alors la France et l'URSS.
Et ta sœur.
Je ne comprends pas, là.
Ce sont des États sœurs.
Ah, ce sont des États sœurs. Voilà.
Avec Leluron, on a eu une aventure de 7 années qui nous a amené de... J'ai beaucoup écrit pour les théâtres qu'il a pu faire et les spectacles. Et j'ai surtout beaucoup écrit pour la... C'était formidable. J'ai écrit beaucoup. On a fait 4 ans ensemble à France Inter. Et on a fait 2 ans à Europe 1, plus les télés, plus tout un tas de trucs. Donc j'avais plus le temps d'écrire dans la presse, quoi.
Pour parler un tout petit peu de Thierry Leluron, c'était un véritable homme de spectacle. On le voyait quand on voyait ses spectacles. C'était un homme de la scène. Il avait un don inné de la scène.
Oui, il avait un don inné de la scène. C'était une machine, si vous voulez. C'était une formidable machine. Il n'y avait aucune place à l'improvisation. Et Thierry, c'était un type qui pouvait répéter son spectacle. Il avait un spectacle de 1h50, 2h. Il pouvait répéter son spectacle et à la fin de la répétition, sans l'interrompre, il était capable de vous dire
tout ce qui n'a pas marché depuis le début. Il savait que le rouge n'était pas parti à tel bon moment au début du spectacle, que le vert n'allait pas très bien, que le bleu était un peu faible. Enfin, c'est très étonnant. Hein. Je crois qu'il y avait deux personnes comme ça en France, c'est Thierry et Yves Montand, qui étaient, paraît-il, exactement pareils. Enfin, j'ai rencontré des gens qui ont eu la chance de travailler avec Montand en musical et qui m'ont dit que c'était aussi une machine. Thierry, c'était une machine terriblement bien huilée, quoi. C'était l'instinct, mais l'instinct mécanique à l'américaine, si vous voulez. Il avait une route qu'il suivait sur scène et rien ne venait le distraire, quoi. C'était très impressionnant.
Monsieur Marchais, vous allez vous asseoir ici, sur la plus haute marche du podium.
Ouais.
Alors, monsieur Marchais, si par hasard vous omettiez une vérité.
Oh, c'est pas le genre de la maison.
Si vous alliez jusqu'à dire un mensonge.
Oh là là là. Loin de moi cette idée.
Ah, on ne sait jamais. Voici ce que ferait notre véritomètre.
Oh, oh. Vous pouvez y aller. C'est pas moi qui vais user votre truc, hein. Vous savez, les Français le sachent bien. Et j'aurais aimé que vous le sachiez vous-même. Encore est-il fallu pour cela que vous le suciez. Ou que eux le sachiassent. Mais,
vous avez fait Sciences Po?
Oui. Dites donc, les Français, donc, le savent. Je ne dis que la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, et puis c'est tout. Ah non, il fallait me prévenir que c'était branché, hein, moi. Ah,
qu'est-ce que vous faites?
Liliane, fais les valises, on s'en va.
Allez, 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 revenez.
J'ai vécu pleinement auprès de lui les moments professionnels parce que je savais que c'était une chance inouïe que je ne reverrai plus jamais. C'est-à-dire que je pense que sincèrement, sans être désagréable avec qui que ce soit, je pense que le génie scénique de Thierry, le génie du spectacle qu'avait Thierry, aujourd'hui personne ne l'a. Actuellement, je ne vois pas qui peut l'avoir en France tout du moins. Hein. Mm-hmm. C'était vraiment au niveau des grands américains.
C'est donc quelqu'un qui vous impressionnait, on peut le dire ?
Absolument, sur le plan professionnel, beaucoup. Sur le plan personnel, c'est quelqu'un de très, très simple et très gentil. Bon, on a eu des hauts, on a eu des bas, on s'est engueulé comme on s'engueule avec des copains ou des amis, mais sur le plan personnel, c'est un type tout simple. Hein. Mais sur le plan professionnel, énormément. Et plus depuis que je monte moi-même sur scène, je m'aperçois à quel point il faisait un boulot considérable. Mm-hmm. Considérable. Avec beaucoup d'argent. Attention, le spectacle du gymnase, c'est quand même un spectacle qui avait coûté un paquet de pognon pour montage et tout. Hein. Mais je pense qu'on l'aurait mis nu, entre guillemets, sur une scène de cabaret, il aurait été aussi fort. Quoi.
Allez, comme vous êtes le premier, je vous fais un petit cadeau. Mais vous restez, hein. Une minute sans le véritomètre.
Une minute sans votre gros appareil.
Voilà, mais pas plus.
Où est la caméra ?
Devant vous.
Top chrono. Mes chers camarades, je m'adresse à vous ce soir, en tant que secrétaire général, d'un grand parti comme le nôtre. Voici des années, que vous êtes des millions à voter communiste. Puisque je me suis battu, c'est mes pompes, pour devenir secrétaire général. Et moi, je dois dire qu'il a fallu, j'ai dû acquis un bagage.
Thierry, j'ai eu la chance de le voir au gymnase, j'étais avec lui, puisque je l'interviewais quand il faisait Marché.
De grands moments d'humour. Ouais, ouais.
Marché, Barre et Mitterrand, ouais, ce sont des classiques hein, maintenant. Mais c'est vrai que tous les soirs, je le regardais sur scène. Mais à l'époque, je ne pensais pas monter sur scène, parce que je ne pensais pas que ça allait se terminer de façon aussi tragique. Et c'est vrai que quand je monte en scène, je pense toujours à lui. Je me dis, qu'est-ce qu'il fera à ce moment-là ? Et je regrette en me disant, j'aurais mieux fait de le regarder plus encore, parce qu'il y avait tout à apprendre, quoi. Mais c'est vrai que j'ai vu un film sur le One Man Show d'Eddie Murphy. Alors moi, je parle pas bien l'anglais, pas bien l'américain. Alors je comprends pas du tout l'américain. Et il avait sorti en film le One Man Show d'Eddie Murphy. Et je me suis aperçu aux cadences des rires que ça allait aussi très très vite, quoi. C'est-à-dire que c'est ça. Hein, le principe, c'est faire des chutes sans arrêt. Et puis si les gens n'ont pas saisi pour une raison ou une autre, vous savez que tout de suite derrière il y en a une autre. Mais c'est formidable en scène parce que quand vous entendez une salle rire, Et que vous dites, bah tiens, dans 10 secondes, je vais en balancer une autre, ils vont encore rire, ça c'est un plaisir terrible, quoi.
On n'est pas en direct ?
Ah non, on est sur TF1, monsieur le président.
Les archives du rire.
Monsieur le président, tout d'abord, merci de nous laisser ainsi pénétrer votre intimité la plus profonde.
N'exagérons rien.
Ensuite, je crois qu'une question s'impose. Pourquoi la tché ?
Eh, parce que la tché !
À vos souhaits.
Elle est chée. Je me retrempe dans cet univers fait de pain des Landes. L'Aquitaine, Landes. Et c'est là que je me ressource. Je suis un bucolique frénétique. Il y a 14 habitants à la Tché. Je connais tous. Il y a 12836 RS aussi. Ils me connaissent tous. Et c'est ici que je viens réfléchir aux affaires du pays. Quand la France va mal, quand j'ai mal à la France, hein, je vais à la Tché. Cette année, j'ai décidé de m'installer 12 mois sur 12.
On a pu admirer votre magnifique jardin.
Je vous remercie, ce n'est pas mon jardin secret, puisque c'est moi qui m'en occupe.
Ah, c'est vous qui vous en occupez?
Oui, je bêche.
Vous êtes bêcheur?
Très bêcheur. Je bine aussi, je suis un très gros bineur. Je peux biner 3 fois par jour.
Et la nuit, qu'est-ce que vous faites alors?
Bien, la nuit, demandez à Daniel, je laboure.
Vous plantez?
Je plante, oui. Ça, j'ai plusieurs plantations à mon actif depuis 4 ans. Autrefois, je faisais dans le souci. Après, j'ai récolté des lauriers. Maintenant, je suis dans les choux.
Monsieur le Président, malgré vos deux moutons, Yvan et Anne, vous m'avez l'air bien seul. Me gourge.
Oui, du moins l'asperge.
Thierry avait gardé le... Ce qui était formidable chez le Luron, c'est que c'était une star, mais il avait gardé le respect des gens avec lesquels il avait travaillé avant. Par exemple, je voyais André Gaillard l'autre fois, et il me disait, tu sais, ce que je n'oublierai jamais, c'est quand j'étais dans la mouise totale, quand son copain est parti, quoi, Teddy, hein, c'était Teddy Vrignot, c'est ça, est parti. Il me dit, le seul type qui m'a appelé, c'est Thierry Leluron. À l'époque, André Gaillard avait remonté un tour avec une femme, hein, et le seul qui lui a dit, écoute, faut que tu bosses, viens faire ma première partie, c'est Leluron.
C'est Thierry Leluron qui avait proposé aussi à Pierre Douglas de monter sur scène.
Oui, oui. Mais là, c'est le souvenir de gens qu'il admirait, avec lesquels il était heureux, quoi.
Il m'a carrément poussé, c'est-à-dire que bon, il n'y avait plus qu'à me pousser, hein, je demandais que ça. Hein.
Pierre Douglas, journaliste devenu humoriste en 1977, avec le coup de pouce de Thierry Leluron.
Je demandais que ça, mais il fallait que quelqu'un me pousse, et ça a été Thierry Leluron. Car j'ai, à l'époque, c'était en 77, j'ai été le premier à imiter Georges Marchais, donc c'était en plus de ça dans un contexte politique extraordinaire. Marchais était à la télé 3 fois par semaine, c'était une bête de télévision. Et dès l'instant où je suis arrivé avec l'imitation de Marchais, où j'ai eu la chance de faire travailler un peu mon imagination pour lui faire dire des choses qui n'étaient pas loin de ce qu'il pensait, mais qui étaient loin de ce qu'il disait, Leluron m'a dit, oh là là, il faut que tu montes sur scène. Et bon, il m'a propulsé au Don Camillo, au Caveau de la République, et puis après, bon, c'est parti, quoi.
Vous aviez d'ailleurs enregistré un 45 tours avec
Thierry. Tout à fait, c'est le débat du siècle, oui, c'était très drôle, c'était... Un débat entre M. Barre et M. Marchais, et c'était très très drôle. On a enregistré pendant 2 jours, on a enregistré 4 heures, je crois, 4 ou 5 heures de texte, en improvisant, uniquement en improvisant.
Ah oui.
Et on a réécouté nos 4 heures, on en a acheté 3 heures et demie, et dans la demi-heure qu'on a gardée, on a fait un montage de 2 fois 8 minutes.
Oui, oui.
Et là, ce qu'on a gardé était efficace, parce qu'on l'a enregistré d'ailleurs au Caveau de la République, ici sur scène, 2 soirs de suite, et c'est la seule fois de sa vie où Thierry est passé sur la scène du Caveau, c'est pour enregistrer le disque avec moi.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous allez assister au débat du siècle qui va opposer M. Raymond Barre, Premier ministre, à M. Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français. Le tirage au sort ayant désigné M. Barre pour ouvrir le débat, M. le Premier ministre, vous avez la parole.
Eh bien, M. Marchais, je suis heureux, finalement que ce débat ait enfin lieu.
Oui, alors écoutez, excusez-moi, monsieur le Premier ministre, mais c'est un scandale. C'est un scandale, cette opération. Ça fait des mois que je cours après ce débat. On invite le leader de l'opposition à la télévision une fois tous les années bissextiles. Eh oui, et quand j'arrive, on me dit de me taire. Alors quand est-ce qu'ils causent le représentant des travailleurs et des masses populaires?
Écoutez, monsieur Marchais, j'aimerais tout d'abord vous serrer la main.
Mais il n'en est pas question, monsieur.
Je constate que vous ne me laissez même pas terminer.
Allez, finissez votre phrase.
Eh bien, je voulais vous dire, monsieur Marchais, que j'aimerais vous serrer la main, car vous êtes véritablement notre meilleur allié. Vous êtes le leader de la désunion de la gauche, monsieur Marchais.
Les archives du rire.
On va tout de même entendre l'imitateur dans la radioscopie qu'il donne à Jacques Chancel le 5 novembre 1979. Thierry Leluron se souvient que peu de monde croyait en lui et à sa carrière.
C'est-à-dire que généralement, c'est l'écueil qui arrive, je crois, parce que ce métier est bercé de beaucoup d'illusions. Au départ, le succès, la gloire fraîchement arrivée. Et je crois qu'on a tendance à bâtir des buildings avant de s'occuper des fondations. Et moi, plus les pierres du building grimpaient, plus je me suis aperçu qu'il fallait surtout s'occuper des fondations. Alors c'est ce que, au lieu de construire en hauteur, j'ai essayé de construire en profondeur d'abord.
Et puis vous avez abordé un art qui d'ordinaire était réservé au cabaret, c'est-à-dire qui ne tenait pas, qui ne permettait pas à ceux qui l'exploitaient, entre guillemets, de faire une carrière, disons, nationale.
C'est-à-dire, je crois qu'au départ, c'est pas un art, en tout cas. Je crois que c'est un don, je dirais même que c'est un don un petit peu de noces et banquets, si vous voulez.
Mais ça devient un art par la suite, parce qu'on peut faire passer les choses.
Ça peut devenir un métier, si on le fait professionnellement, et puis alors peut-être que par la suite, ça peut devenir un art. Moi, j'essaie, par exemple, de pas tellement de faire de la carte postale, j'essaie plutôt de faire de la peinture. Alors, ça me permet d'improviser davantage, et je crois peut-être aussi de créer davantage. Si je m'en tiens rigoureusement à la ressemblance physique et vocale, avec un petit texte comme ça, gentil, qui passe, je pense que ça offre moins d'intérêt pour le spectateur que de chercher des idées, des situations de mise en scène, et d'essayer avec un texte, bien souvent d'ailleurs fait par d'autres ou en collaboration avec moi, ou des fois même par moi, ça permet de sortir certaines idées, parfois même peut-être essayer de faire un petit peu réfléchir, mais enfin j'ai pas la prétention d'être un imitateur à message.
Claude Véga, lui, était imitateur et acteur. Il vit toujours, mais dans les années 60, il montait sur scène, faisait un tour d'imitation, et nous l'avions rencontré à Fribourg en 1997. Je lui avais demandé comment lui avait perçu l'arrivée de ce jeune imitateur dans les années 70.
Il a vu l'insolence, la merveilleuse insolence de la jeunesse et cette frimousse adorable. Alors, il pouvait dire des choses énormes, mais dans le fond, ça passait. Je crois que chez d'autres personnes, ça serait passé difficilement, peut-être plus, moins bien, peut-être. Mmh. Il avait la grâce de l'enfant, de l'adolescence, mmh. Et ça passe davantage. Mais si, chez quelqu'un qui a un âge un peu plus avancé ou qui n'a pas tout à fait le physique de ça, ça serait peut-être été un peu plus dur. Mais il avait le charme et l'insolence qui était très dur, hein, parce qu'il y allait même avec des copines, hein, c'était quand même un peu difficile, j'aurais pas osé en dire le quart sur les miennes, hein.
Ah, oui.
Elle m'aurait tué. Hein.
Elle revient, elle aussi, du Caire, où elle est née. Je dois dire qu'elle a eu un triomphe là-bas, vous savez qu'avec le comte de Saint-Germain, elle forme un beau couple. Il a 3000 ans, paraît-il, quand on les voit dans la rue, tous les deux, on croirait que c'est elle. Quand le sphinx l'a retrouvée, il s'est écrié « Maman, Dalida !»
Mais qui c'est cette Fatma?
Comment?
Qui c'est cette Fatma?
Mais c'est Dalida, voyons.
Et qu'est-ce que tu fais là?
Mais je danse.
Mais tu danses quoi? Le twist, le fox?
Mais non, le Ramses Walk.
Le Ramses. Allez, viens là.
Si vous allez au Caire, dites bonjour à ma grand-mère. Elle est exposée au musée, au rayon des antiquités.
car ma grand-mère à moi, elle était plus belle que moi, comme la nature l'avait gâtée, et mamie c'était la préférée. Sous la grande pyramide, elle n'a pas pris une ride, le Ramsessois, ça l'a bien conservé. Les pharaons et les rois, le comte de Saint-Germain, je crois, furent amoureux. Elle avait mes beaux yeux là, et elle se laissait faire. C'était une bonne affaire. J'ai sa photo dans la cuisine, embaumée, sublime. Quand elle voulait se faire draguer, il lui suffisait de danser. Le Ramsessois, c'était pas compliqué.
Les archives du rire.
Le 25 septembre 1985, Thierry Leluron épouse Coluche à Paris. Les deux humoristes quittent le Monde l'année suivante. Mais ce mariage a marqué les esprits, dont celui de Robert Malla.
L'amitié entre Coluche et Leluron était formidable parce qu'ils cultivaient la même dérision, chacun dans sa spécialité. Alors vous connaissez le mariage, le fameux mariage qu'ils ont célébré, je crois, à la mairie de Montmartre. Et puis après, ils sont montrés en calèche sur les Champs-Élysées. C'était pour se moquer du mariage de Mourouzi, qui avait été fastueux et diront les gens un peu grotesques, mais ça, ce sont des mauvaises langues. Et le tragique de l'histoire, c'est cette mort de Coluche en juin 86, suivi à quelques mois à peine par la mort de Leluron. Oui. Oui, c'est bon. Moi, j'ai bien connu Leluron, j'ai bien connu Coluche. Ça m'a fait un chagrin. C'est ce que j'appellerai un chagrin d'humour. C'est vrai qu'un humoriste qui nous quitte, c'est comme un chagrin d'amour. C'est la même chose. Humour, amour, ça ne rime pas seulement, ça rime dans la vie, dans la vie de tous les jours.
Ah, je perds ma jarretière, regardez, elle est tombée au-dessus du genou.
Ah, je peux plus, hein.
Oh la merde. Je préfère avoir une épouse comme Coluche qui a de la personnalité.
Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que vous pensez de l'émoi que provoque votre mariage?
Chez les autres?
Chez tout le monde.
Je les comprends.
Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Si vous y tenez autant que moi, prenons rendez-vous un jour, n'importe où. Je promets que j'y serai sans faute, à Noël ou à la Pentecôte. On la connaît comme à Tombouctou. Plus on est de fous, plus on rit de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. J'y tiens beaucoup. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Le monde est petit, profitons-en. Si votre chemin passe par le mien, ma roulotte croisera la vôtre. Le hasard souvent fait bien les choses, surtout quand on peut l'aider un peu. Une étoile passe et je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut. souvent fait bien les choses, surtout quand on peut l'aider un peu. Une étoile passe et je fais un vœu, nous nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut.
Les archives du rire.
Thierry Leluron dans les archives du rire avec ceux qui l'ont côtoyé, Robert Malat, Guy Lux, Bernard Mabie, Pierre Douglas et Claude Véga, rencontrés à Paris, Montreux et Fribourg entre 1992 et 1997. L'extrait de l'interview de Thierry Leluron date du 5 novembre 1979 et se trouve dans les archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Cette émission est à retrouver en ligne sur la page des Archives du Rire et moi j'aurai le bonheur de revenir très bientôt. Au revoir.